Ce qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
Peut-on être socialiste aux États-Unis ?
Le socialisme, c'est du communisme.
Je suis contre le socialisme, c'est contraire au fondement de notre pays.
Dans les émissions satiriques, Bernie Sanders joue les papis révoltés contre les injustices.
Maintenant, ça suffit.
Enough.
Mais c'est du socialisme, ça.
C'est un vieux type au regard fiévreux. Il croit dur comme fer qu'il peut exister quelque chose comme une fraternité humaine. Et le plus étrange, c'est que tant que ce type est dans le coin, j'y crois aussi. Ce n'est pas Sanders que décrit ici un témoin il y a plus d'un siècle, c'est Eugène Debs, organisateur et plus encore orateur du mouvement ouvrier du tournant du XXe siècle. Et Eugène Debs est le modèle de Sanders qui a installé son portrait dans son bureau du Capitole. Pourtant, au moment même où l'engagement syndical et politique tel que le représentait Debs remportait un certain succès, le sociologue Werner Sombart, dès 1906, expliquait dans un essai fameux pourquoi le socialisme n'existe pas aux États-Unis. Son verdict à l'époque pouvait paraître trop tranchant, mais le siècle lui a donné raison. Dès l'engagement des États-Unis dans la Grande Guerre, les Rouges sont apparus définitivement comme des infidèles. La bipartition politique ne leur laisse pas non plus d'espace. Les grands syndicats, surtout, leur tournent le dos, préférant l'évangile de la richesse à l'idée de la révolution. À intervalles réguliers, quand l'aggravation des inégalités dément les promesses de cet évangile, une tradition minoritaire peut cependant se réveiller, qu'incarne parfaitement l'indignation de Sanders. Que peut-il rester de l'idéologie de ce pays si les efforts de 90% de sa population aboutissent surtout à en enrichir 0,1%?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Jacques Porte, bonjour.
Bonjour, Jean-Louis.
Professeur émérite de civilisation nord-américaine à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Oui. Alors évidemment, un jour on vous fera parler de Buffalo Bill. Je sais que bientôt vous publiez un livre sur l'Ouest. Eh ben, justement, au moment qui va nous intéresser, deuxième moitié du 19e siècle, l'Amérique de Jefferson n'est plus vraiment de saison et la conquête de l'Ouest n'est pas le mouvement déterminant, comme on le croit encore, quand on est nostalgique des cow-boys. Ce qui est important, deuxième moitié du 19e siècle, c'est la révolution industrielle.
Absolument. C'est absolument la nouveauté complète. Et depuis la fin de la guerre de sécession, en gros, les États-Unis sont devenus une puissance industrielle à tout point de vue, avec en particulier le développement d'une ville comme Chicago, qui n'était rien vers 1870, avait brûlé, était peu de choses, et qui devient un hub, comme on dit aujourd'hui, d'industrie, de chemin de fer. Les abattoirs de Chicago, qui sont installés dans les années 1880, sont capitaux pour faire venir la viande du Texas et autres, les bêtes qui sont ensuite transformées en viande à Chicago, et qui vont servir de symbole, si on veut, de la consommation pour les Américains, et en même temps qui vont être décrits abattoirs comme l'horreur et la gêne par Upton Sinclair, parce que on retrouve dans les abattoirs de Chicago une main-d'œuvre ouvrière immigrée, récente, venant de tous les pays d'Europe pour l'essentiel, ne parlant pas anglais, n'étant pas syndiquée, puisque l'AFL ne syndiquait pas les ouvriers étrangers.
Le premier grand syndicat fédéré. Oui.
Absolument, qui date du 86-87, et ne syndiquait pas les ouvriers étrangers et immigrés récents.
Alors, voici un immigré. Il est d'origine lituanienne. Il est un peu fatigué. Je ne sais pas s'il parle très bien anglais. Dans un premier temps, quand il assiste à un meeting et qu'il rencontre pour la première fois un orateur socialiste, il aurait tendance à ronfler. Mais voici que cet orateur va l'électriser. C'est une adaptation à la radio signée Evelyn Frémy du livre que vous citiez,
Upton
Sinclair, La Jungle.
Travailleurs, salariés, esclaves, entend l'appel impérieux des pauvres et des opprimés qui exige la fin de l'oppression.
Bravo ! Bravo !
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jamais je n'ai entendu parler ainsi. Cet homme a dit des choses si merveilleuses.
Eh bien, camarade, puisque tu penses ça, chante avec nous si tu connais ce chant. C'est celui de la Révolution française. Tu l'apprendras vite. Il est le symbole de tout ce que tu viens d'entendre.
La tyrannie, les condamnations d'entrée le
Il m'a été impossible de m'en aller sans vous avoir dit combien j'ai été bouleversé par tout ce que vous avez exposé. Je n'avais jamais entendu parler comme ça de nos malheurs. Vous savez, j'ai passé par toute cette misère dont vous avez parlé.
Mais pas américain, n'est-ce pas?
Je suis naturalisé, mais je suis né en Lituanie.
Walters, allez donc voir si Ostrinski est encore dans la salle à bavarder. Il est polonais. Je crois me souvenir qu'il parle lituanien. Ostrinski vous expliquera aussi bien que moi le socialisme et ses buts.
Oui, mon garçon, je suis socialiste. Je suis entré dans le mouvement prolétaire quand j'étais jeune en Silésie. Et je dois te dire que je suis juif et que c'était une race méprisée, persécutée dans mon pays. Alors j'ai émigré. Mais aux États-Unis, quand je parlais du socialisme, on me riait au nez, on me disait « En Amérique, tous les citoyens sont libres. » C'est vrai, on a la liberté politique, mais celle du travail. Est-ce qu'on l'a, camarade? C'est plutôt un esclavage.
Le juif polonais, Bernie Sanders, est d'origine juive polonaise. Qui rencontre le lituanien aux abattoirs de Chicago que vous citiez, Jacques Porte, et nous sommes en 1906. Alors, répétez ce qui est très important, le grand syndicat qui commence à faire souche n'accepte pas les immigrés.
Non. Enfin, il syndique les ouvriers spécialisés, par métier. Donc c'est pas un syndicat universel pour tous les ouvriers. C'est uniquement les ouvriers spécialisés, reconnus par métier. Et donc c'est des ouvriers spécialisés qui sont, pour l'essentiel, c'est pas à 100%, mais plutôt des ouvriers d'origine européenne, blanche, installés depuis longtemps aux États-Unis.
Et qui croient à l'évangile de et la richesse, au mérite pour les meilleurs.
Qui acceptent des grèves extrêmement dures, mais c'est pour améliorer leurs conditions, etc.
Bon, mort, du grain à moudre, davantage.
Absolument.
Je traduis l'anglais à ma façon, en langue
Et c'est
Bergeron.
Pour ça qu'il y a toujours eu des tendances syndicales ou politiques pour essayer de lutter contre cette...
Alors qu'est-ce que c'est les tendances syndicales minoritaires et les tendances politiques socialistes qui luttent contre
les premières,
cette
AFL. Si on remonte très brièvement en 1886, c'est aux émeutes de Chicago justement, qui on a exécuté, ce sont des étrangers, des Russes et des Allemands, qui étaient quoi disons responsables de l'attentat, enfin, ce n'était pas prouvé, mais enfin, peu importe. Et donc, il y avait toujours eu une tendance...
C'était le 1er mai 86.
Absolument.
Et une bombe qui a explosé
pour la
grève
de 8 heures, et puis manifestation d'abord, et ensuite une bombe qui a explosé. On n'a jamais su si c'était la police qui l'avait lancée ou quiconque, mais enfin, on ne peut pas le savoir, ça, en fait. Mais ça a débouché sur la répression. Et la justice, bien sûr, a condamné à mort des étrangers. Parce que ça reste fondamental dans la position des autorités, des syndicats et des autorités, pour dire « le mal vient de l'étranger ». Ce sont des étrangers qui sont des socialistes, ce sont des gens qui sont communistes, donc il faut absolument s'en débarrasser.
Il n'y a pas encore de communistes,
Jacques Porte. Non. Ça sera
à l'époque
pareil.
Qui nous intéresse, mais il y a déjà ce projet internationaliste d'une organisation qui choisit d'ailleurs un nom qui dépasse les frontières.
Oui,
International Workers of the World.
Et qui est aussi dirigé plutôt par des immigrés, et qui va essayer de prendre des positions très fermes, très dures, contre les capitalistes, en particulier dans le Colorado et autres, et qui vont être réprimés sauvagement par la police. Et le film Joe Hill, qui a été ressorti récemment, raconte très bien la montée de ce syndicat et qui se heurte vraiment à une opposition farouche des autorités.
Un grand syndicat cheminot est animé par Eugène Debs. Alors ça, c'est le personnage qui sert de modèle aujourd'hui à Bernie Sanders, qui a même réédité sous forme de disque des discours réinterprétés de Debs, qui était un orateur assez fascinant.
Oui, Eugène Debs a donc à représenter donc le parti socialiste. Pendant un court moment, il a quand même obtenu 6% des voix en 2006, en 1912, ce qui était quand même assez remarquable.
Alors dites-moi, il a obtenu 6% des voix en se présentant comme indépendant en 1912,
oui.
Se présentait aussi comme indépendant l'ancien président, Theodore Roosevelt, qui avait fait deux mandats au début des années 1900, et qui incarne... Il faut le présenter quand même pour achever la peinture de cette époque. Une tendance progressiste qui répond à la conscience montante des inégalités.
Oui, en partie. C'est-à-dire, le progressisme est un mouvement de pensée vraiment américain, qui n'a pas d'équivalent... Non, il n'y a pas d'équivalent européen pour ça. Pas tellement. Enfin, il emprunte à ceci de là. Si, il y a des contacts, mais c'est assez particulier quand même. C'est-à-dire, c'est un mouvement d'intellectuels, de journalistes, d'ingénieurs, qui, à un moment donné, se sont dressés contre les abus des villes industrielles, contre la pollution, si on veut, contre la dureté du travail et tout. Ils n'étaient pas socialistes. Ils étaient pour améliorer la façon de vivre dans les villes.
Et ils disaient que c'était dans les idéaux américains qu'il fallait puiser pour trouver des solutions.
Et prendre le pouvoir, c'est-à-dire au début dans les villes, et ensuite au niveau national, pour réformer justement suffisamment. D'où le fait que Theodore Roosevelt était progressiste, comme Franklin Roosevelt sera progressiste aussi.
Nous sommes en 1912, les choses sont encore équilibrées, le socialisme aurait pu avoir un avenir peut-être, mais vient la Première Guerre mondiale, le président Wilson va imposer un choix décisif en faisant entrer les États-Unis dans la guerre en avril 1917. À un moment où la révolution russe a déjà commencé. Ce qui fait que les socialistes américains se retrouvent, comme les Européens, devant le choix de la participation ou de la non-participation à la guerre, mais avec, à l'horizon, la révolution russe.
La conviction profonde est que socialisme et paix sont inséparables. Et je réaffirme que le PS américain maintiendra fermement sa résolution de non-intervention de notre pays dans cette guerre.
Monsieur le Président, Louis Frayne, délégué de Boston.
La parole est au délégué de Boston.
Je voudrais savoir comment concrètement vous allez mener notre action contre la guerre. Votre résolution, c'est bien joli, mais va-t-elle empêcher un seul Américain de se faire tuer? J'avoue que j'en doute.
Ils ne veulent pas être jugés mauvais patriotes. La tâche qui nous incombe s'avère très difficile. Il faut espérer que nous saurons l'amener à bien.
Cet idiot! Le Parti Socialiste a-t-il, oui ou non, l'intention de lutter contre la conscription? Voilà ce que j'aimerais savoir.
Le délégué veut-il se nommer?
Je ne suis pas un délégué, monsieur le Président. Je m'appelle Jack Reed. Je suis journaliste pour la revue Les Masses et j'aimerais qu'on me dise si le PS va organiser des manifestations contre la conscription.
Monsieur Reed, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans ce meeting. Il est réservé aux délégués, pas aux...
Monsieur le Président, nous direz-vous quand même si le PS va prendre position sur la conscription ou non?
Monsieur Reed, vous n'avez pas le droit d'intervenir.
Reed, monsieur le Président. Alors, on vient au meeting politique, hein? Je fais mon travail de journaliste. Monsieur le Président, j'aimerais...
Comme Trotsky. Voyons ce qui va se passer en Russie. Pourquoi ne pas vous inscrire au Parti Socialiste? Il nous faut des hommes comme vous, Reed.
En tout cas, ça bouge en Russie.
Aussi difficile que cela puisse être pour des socialistes d'être solidaires de ce bain de sang, il apparaît comme une nécessité d'apporter notre soutien à l'État en temps de guerre.
Le film de Warren Beatty, Reds, avec le personnage de John Reed, le journaliste qui rapportera plus tard 10 jours qui ébranlèrent le monde, un livre qui sera longtemps lu comme un évangile dans la planète communiste. À partir de 1918, les socialistes démultipliés, parce qu'il y a des communistes, deux partis communistes d'ailleurs, très vite, ils vont apparaître comme des infidèles qui ne participent pas à la mission de croisade de la liberté que représente le discours du président Wilson. Et une répression très dure va s'abattre contre eux à partir de 18.
Absolument. C'est-à-dire que comme il y a eu en 18 au retour des soldats certaines émeutes raciales, des Noirs qui se sont révoltés contre la ségrégation, puisqu'ils estimaient qu'en ayant passé à la guerre, ils avaient droit à leurs droits civiques, si on veut, et qu'il y a eu des manifestations aussi du Soviet à Seattle, c'est-à-dire un mouvement qui s'est revendiqué Soviet de Seattle, dans les chantiers navals de Seattle. Tout ça, le gouvernement Wilson a pris peur, littéralement, avec l'exemple, bien sûr, de la révolution russe, a pris peur et a décidé avec Palmer et le FBI qui naît à ce moment-là, qui n'existait pas avant, d'expulser tous les militants socialistes qui n'avaient pas la nationalité américaine. Et même quand ils l'avaient, il y a 5 ont été expulsés. Emma Goldman a été expulsée en Russie où elle n'avait jamais mis les pieds quasiment, parce qu'elle était partie, elle avait 2 ans, je pense. Et puis d'autres, il y a plusieurs centaines vont être expulsés comme ça.
Et le camarade de Eugène Debs, dont je vous avais oublié de dire qu'il était d'origine alsacienne.
Il est d'origine alsacienne et il sera mis en prison, lui, parce qu'il est américain.
À l'été 18.
Il est américain quand même.
Et il va passer plus de 2 ans en prison. Il sera encore en prison quand commencera le procès de Sacco et Vanzetti. Alors là, c'est une histoire qui est un petit peu comparable à celle de 1886.
Un tout petit peu, oui.
Dénonciation d'anarchistes sans preuve très très sérieuse, accusé d'un hold-up et d'un meurtre.
Absolument,
Sacco
d'un caissier.
Et Vanzetti se retrouve en procès.
Deux anarchistes italiens qui se retrouvent en procès sans preuve véritable, mais là qui sont vraiment des boucs émissaires. des boucs émissaires parce qu'ils sont étrangers, ils sont italiens, ils ont amené donc la vérole anarchiste dans le sein terrain américain.
Mais tout tourne dans votre explication à la question. Pourquoi il n'y a pas de socialisme aux États-Unis sur cette question de l'immigration?
Je crois que ça compte énormément. Ça compte énormément parce que le syndicaliste est forcément... Les ouvriers étaient divisés, la classe ouvrière était divisée de haut en bas, en deux vitesses. Il y avait les ouvriers américains qui profitaient de tout ça et les autres qui poussaient mais qui étaient plus nombreux et qui n'étaient pas syndiqués. Et ça durera jusqu'au CIO en 1936, qui va commencer à syndiquer tout le monde.
Mais comme disait un patron, on peut faire tuer la classe ouvrière par l'autre moitié de la classe ouvrière.
Et c'était un peu ça.
Parce
c'était,
que les appartenances communautaires sont extrêmement fortes.
Et puis en
fortes.
Même temps, comme la FL était forte, elle garantissait disons, le maintien de ses avantages pour ses membres.
La FL n'a pas soutenu Sacco et Vanzetti.
Oh, bien sûr que non. Mais il faut dire pour Sacco et Vanzetti, pour finir, juste un point, qu'on a la preuve aujourd'hui que les manifestations pour eux ont joué contre eux. Les manifestations européennes pour eux ont joué contre eux. Au bout du... Peut-être un peu moins vite, mais enfin, c'était... Ils ont joué contre eux quand même.
Je veux que tout le monde ait assez d'argent pour vivre. Je veux que nos enfants ils aient une bonne instruction, un bon départ dans la vie. Blanc ou noir, quelle que soit la couleur et la nationalité. Je ne veux pas que les gens de la classe capitaliste, qui sont bons qu'à cacher leur argent à la banque, puissent avoir le droit, quand ça leur chante, d'exploiter les malheureux ou de les envoyer à la guerre. Nous ne voulons plus de ça parce que ça n'est pas bien. La guerre, c'est pas bien, non? Personne n'a le droit de tuer, que ce soit à la guerre ou non. J'ai travaillé avec des Allemands ici. Ils m'ont traité comme un frère. Et pourquoi est-ce que je devrais les tuer? Je suis ni Morgan ni Rockefeller, deux grands hommes pour vous, monsieur. Je connais pourtant des gens plus grands qu'eux qu'on met en prison pendant des années. Eugène Debs, un grand homme de votre pays, qui est allé en prison et qui y est encore parce qu'il est socialiste.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Autour de la question d'actualité, ce Super Tuesday, peut-on être socialiste aux États-Unis en compagnie de Jacques Porte qui va à chaque concert de John Baez en France? Et la musique, là?
Elle était de Ennio Morricone.
Et alors?
Et qui a obtenu l'Oscar en 2016 pour son œuvre musicale.
Ah, parce que vous regardez aussi la cérémonie des Oscars?
Ah non, je l'ai lu.
Vous l'avez lu.
C'est un peu long.
La crise de 1929, qui marque la faillite d'un système si longtemps vénéré, pourrait peut-être favoriser le mouvement socialiste. D'ailleurs, un certain nombre de marches de la faim des chômeurs sont encadrées par des communistes.
Absolument.
Mais là encore, le New Deal de Franklin Roosevelt, comme la politique progressiste de son ascendant Theodore Roosevelt, 30 ans plus tôt, cherche des solutions, non pas dans le socialisme européen, mais dans les idéaux américains.
Absolument.
C'est parce qu'ils ont été oubliés qu'on est dans cette situation d'inégalité.
Absolument, absolument. Franklin Roosevelt, lui, est un fidèle de Wilson, si on veut, et de son oncle aussi. Et il est persuadé que c'est le corporatisme à l'américaine, qui n'a rien à voir avec le corporatisme de Mussolini. Mais c'est vraiment une entente entre entreprises et ouvriers, avec des droits accordés aux syndicats, mais qui pourront discuter avec les ouvriers dans un cadre collectif et tout ça, qui résoudra la crise. Et ça, il en est persuadé. Sauf que ça ne suffit pas. Très vite, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Bien sûr que la crise, ça ne résout pas la crise, que le chômage continue, etc. Donc, il va peu à peu abandonner ces dispositions pour se lancer dans une politique plus sociale, si on veut, avec reconnaissance des syndicats, des droits de parole pour les syndicats, etc. Et pour aboutir en 38 jusqu'en 42-43, à une véritable cogestion.
Il y a même un mot qui a été utilisé.
Front populaire. C'est le Front populaire à l'américaine, qui correspond à une espèce de cogestion des grands syndicats, de John Lewis en particulier, les syndicats plus larges que la FL, avec le gouvernement, qui fait accepter des modérations de salaire parce qu'on est en plein dans la guerre, mais à condition que ça change après. Et John Lewis et la CIO auraient aimé que ça dure, bien sûr, cette cogestion, mais ça n'a pas duré. Après, très vite, c'est tombé. Mais là, il y a une période, oui, et on trouve, par exemple, à Hollywood, les syndicats d'Hollywood, dont beaucoup de meneurs sont des communistes, qui sont admis tout à fait. C'est, dans le fond, le Parti communiste américain connaît à ce moment-là un essor qui n'est pas lié au FBI, comme après. Il est parce que à cause de la crise, bien sûr, de 29-30, qui a mis à mal tous les discours habituels.
Alors nous voilà maintenant, peu à peu, Jacques Porte, dans les années 50. Vous parlez des grands syndicats, de leur participation à l'expérience de cogestion, de leur volonté de toujours communiquer l'évangile de la richesse. Ce sont aussi des machines à donner du travail, comme en témoigne, film de 1954 signé à Hollywood, il y a 15 ans, les dockers sur les quais de New York menés par un homme qui sait à la fois manier la promesse et la menace.
Nous étions 10 gosses et ma vieille nous a tous élevés avec une malheureuse pension de misère. J'avais pensé en quand je suis venu mendier du travail dans la cale. J'ai pas grimpé jusqu'où je suis maintenant pour la peau.
Ouais, je sais, Johnny, je sais.
Arriver à prendre la tête de l'Union, c'était pas facile. Il y avait quelques caïds assez durs sur la route. Regarde le souvenir qu'ils m'ont laissé.
À chaque pas, ils risquaient de se faire descendre. Et ça l'a pas empêché de leur chercher la bagarre, comprends-tu?
Ouais, je sais.
J'ai maintenant 2000 dockers, membres cotisants de l'association. Ça représente au bas mot 72 000 par an. Et si par-dessus le marché, chacun d'eux y va de ses $2 par jour pour être sûr d'être embauché, je te laisse faire le compte. Nous avons mis la main sur les quais les plus riches du port, le plus riche. Nous prenons notre part sur tout ce qui entre ou sort des docks.
Et c'est régulier. Pourquoi ne le ferions-nous pas, puisque nous en avons le droit?
Et tu crois que j'allais me laisser débarquer d'une affaire comme celle-là sans rien dire? Tiens, mon pan, ce petit billet va noyer ton cafard.
Non, je suis OK.
Allez, tiens, tu vas pas refuser ça à ton ami Johnny.
T'as un ami ici, un vrai. L'oublie pas.
Pourquoi veux-tu qu'il l'oublie?
Oui. Merci, Johnny.
Vous êtes comblé, Jacques Porte, après John Baez, le film de Kazan, qui dit long sur les syndicats américains.
Ah oui, absolument. Ouais.
C'est-à-dire?
Ben, qui montre comment une partie des syndicats sont devenus des... corrompu complètement, oui. Dominant la politique locale et tout, et ça il le montre assez bien. Ça c'est.
Mais si on voit les choses d'une manière plus positive, les syndicats sont un appui au Parti démocrate. Comment votent aujourd'hui les cols bleus américains, qui sont alors, évidemment beaucoup moins nombreux que du temps
bien sûr.
De Elia Kazan.
La coalition Roosevelt date de 36 et s'est maintenue tant bien que mal. Jusqu'à aujourd'hui pour les démocrates. C'est-à-dire allier les Noirs, ou qu'ils soient ouvriers ou pas, la population noire, les ouvriers, on ne parle pas les syndicats, et l'école blanche, et une partie des élites. C'est ça qui fait ensemble fait le Parti démocrate.
Et c'est encore un peu vrai. Hillary Clinton a le soutien de syndicats qui représentent deux tiers des syndiqués d'aujourd'hui.
Et d'autant plus, elle n'a pas tellement le choix d'ailleurs, et ils n'ont pas tellement le choix non plus, qu'une partie des républicains veulent démolir complètement les syndicats. Dans le Wisconsin, ils ont complètement détruit l'appareil syndical des employés et tout ça.
Oui, mais alors là, ça amène à une vaste question, presque aussi grande que celle de Werner Sombart. Pourquoi n'y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis? Pourquoi les laisser pour compte choisissent-ils de voter pour ceux qui veulent démolir les syndicats? Pourquoi Trump va-t-il avoir autant de voix des laissés pour compte? Parce qu'il a aussi un vocabulaire ouvriériste.
Mais bien entendu. Bien entendu, mais parce que une bonne partie des... D'ailleurs, un peu comme en France, si on veut, les syndicats ont perdu une bonne partie de leur clientèle. à cause de la désindustrialisation du pays, bien sûr, à cause des changements de métier aussi et tout. Donc, ils ne représentent plus les forces qu'ils représentaient. Ils sont à 8% de syndiqués à peu près aux États-Unis au maximum.
Comme en France.
À peu près comme en France.
Ça fait 14 millions de personnes.
Oui, mais au total, c'est pas beaucoup plus. Et donc, quelqu'un comme Trump, bien sûr, a joué à plein là-dessus pour parler à des blancs pauvres, venus souvent des entreprises qui ont licencié, venus souvent de ceux qui avaient perdu leur maison au moment des subprimes, venus souvent de tous ces gens-là, dans le fond, qui sont estimés laissés pour compte, complètement laissés pour compte.
Si les laissés pour compte choisissent cette année peut-être davantage Trump, comme ils peuvent choisir des candidats comparables en France, c'est aussi peut-être parce que les démocrates se sont intéressés, on dit ça, hein, de la gauche française, aux questions sociétales, aux minorités, aux femmes, enjeux multiculturels d'abord.
Il n'y a aucun doute que le Parti démocrate, dans le fond, a bâti ses succès sous Obama en 2008 et en 2012, sur une conception multiculturelle de la société. Il faut mettre ensemble tous les groupes constitutifs de la société, ne pas chercher à faire un seul, mais on va tabler sur les Noirs, sur les Latinos, sur les gays, sur les femmes. Et c'est tout ça qui, ensemble, fait les États-Unis. Et donc c'est un pari, ça, et sur les jeunes. Donc c'est un pari qui a marché pour Obama, qui a marché en 2008-2012, mais qui explique aussi que ça ne marche pas aux élections du Congrès, parce que ces gens-là ne votent pas aux élections du Congrès. Ils votent pas un peu pour la présidence, mais pas aux élections du Congrès. Et il en reste des traces dans la coalition qui soutient Hillary Clinton, aucun doute. Elle essaye de reconstituer un peu cette coalition.
Un mot sur Sanders, parce que peut-être aura-t-on moins l'occasion de parler de lui après le Super Tuesday, où il risque de connaître, dans les États du Sud,
une certaine difficulté.
Une certaine difficulté, pour parler par euphémisme. Sa candidature n'est pas sans rappeler celle d'un certain McGovern, qui lui avait franchi pour les démocrates le seuil des primaires et qui avait pu se présenter. Il a été écrasé en 1972 par Nixon, 61% contre 38%. Et c'était déjà quelqu'un qui réclamait le revenu minimum inconditionnel et qui insistait sur le caractère intolérable des inégalités dans l'idéologie américaine.
Absolument, non, ça c'est certain que Sanders vient de cette lignée-là. Et c'est une lignée aussi très européenne. Le modèle de Sanders, c'est dans le fond la social-démocratie. À la Scandinave d'autrefois, disons, des années 70 ou 80, à la Scandinave, ou même à l'anglaise, si on veut. C'est ça, le modèle, avec couverture santé universelle, avec salaire minimum élevé, avec gratuité d'enseignement. C'est des choses qui sont directement liées au modèle européen, si on veut, qu'il a importé.
Et il correspond peu au modèle américain, parce qu'il insiste relativement peu sur la question religieuse. C'est très difficile de lui faire parler de Dieu.
Eh ben, parce que c'est un cas aussi un peu spécial, puisqu'il est juif, mais il est juif non pratiquant. Bien que sa famille ait été tuée, a été déportée et tuée, mais il n'est pas pratiquant du tout. Il ne joue pas du tout de son origine juive, alors que ça pourrait jouer dans la campagne, il pourrait espérer comme ça gagner. Non, pas du tout. Il s'en occupe pas du tout.
C'est très européen de définir Dieu comme étant un système de fraternité. Il dit Dieu apparaît quand nous sommes les uns avec les autres.
Moi, je pense que c'est un système de vision laïque, si on veut, entre guillemets, c'est pas tout à fait pareil, mais une vision assez laïque et que Sanders est en plein là-dedans. Il est, et c'est pour ça qu'il est un peu un ovni au point de vue politique. Parce qu'il est trop à gauche pour le Parti démocrate, s'il l'emportait. Il risquait d'être trop déporté sur le côté, on lui reprocherait très vite. Et il a du mal à trouver passer au centre, bien
sûr.
Enfin,
vous nous avez quand même montré que c'était un revif, une résurgence d'une longue tradition minoritaire américaine. Merci à vous, Jacques Porte. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Martin Cellier, avec à la technique Serge Viguier.